Bonsoir à toutes et à tous, c'est Les Voisins vous parlent. Ce soir, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Thomas à la réalisation, comme toujours.
Coucou.
Et je suis avec une invitée, Isabelle, bienvenue.
Merci, bonsoir.
Et avec une co-membre de l'association des voisines, Justine.
Coucou.
Alors aujourd'hui, on va parler de yoga, de féminin sacré, d'endométriose. Mais d'abord, on va se présenter. Hop, pardon, j'étais un peu fort. Donc, Isabelle, qui es-tu? Pourquoi allons-nous parler de yoga aujourd'hui, d'endométriose et de féminin sacré? Présente-toi.
Alors, je suis professeure de yoga, donc je transmets différents types de yoga, à savoir le hatha, le vinyasa, le yin. On va aussi parler d'endométriose parce que j'ai été diagnostiquée il y a quelques années de cette maladie inflammatoire chronique. Et de ce fait, on parlera aussi de féminin sacré puisque ces trois sujets, à mon sens, sont totalement liés.
Complètement, tout à fait. Bon bah voilà, donc c'est le sujet du jour. Restez avec nous, ça va être extrêmement intéressant. Très doux, très chill, peut-être un petit peu moins... comment on dit ? Bref, dans la légèreté, etc., qu'on a pu l'être l'année dernière. Mais justement, c'est ça qui est aussi très apprécié et appréciable, des partages comme ça. Juju, commençons par toi. Quel est ton rapport au yoga, déjà ?
Mon rapport au yoga, bah écoute, personnellement, j'en pratique pas. J'en ai pratiqué un temps et en fait je trouve que le yoga a quelque chose de très relaxant, de très apaisant, mais qui personnellement n'a pas marché sur moi parce que c'était surtout pour des sources d'anxiété personnellement. Mm-hmm. Et du coup ça me fait du bien qu'on en parle maintenant parce que j'ai eu le plaisir de faire un cours avec Isabelle qui était très agréable et qui était une approche très particulière qui pour le coup me correspondait bien.
Et j'imagine que c'était un type différent du yoga que ce que tu avais eu l'habitude de faire.
Exactement, exactement. Beaucoup plus, selon moi, dans la parole, dans le sens, dans le lien avec la nature. Donc voilà.
Oui, c'était moins un enchaînement de pratiques, il y avait plus de donc, comme tu as dit, de sens derrière et, et d'explications, etc. Ok, très bien. Thomas ?
Oui, mais la question du coup, sur le yoga ?
Oui.
Alors, j'ai jamais testé le yoga en lui-même, mais quand j'étais petit, j'ai fait énormément de séances de sophrologie. Je sais pas si on peut y rapprocher ou pas.
On peut rapprocher les deux disciplines, oui.
Voilà, donc c'est simple, ma seule expérience sur, on va dire, sur un terme de détente et peut-être de spiritualité, même si c'est pas vraiment de la spiritualité, la sophrologie, mais je sais pas pourquoi j'ai rapproché les deux. Donc.
Ok. Bah, moi, du coup, pour mon rapport au yoga, j'en ai fait quand j'étais petite. Pendant un an, je crois, il y avait des cours qui étaient donnés au Fringis. Et j'avais adoré ça. Ça me faisait beaucoup de bien. Puis j'ai arrêté, je sais plus pour quelle raison. Et je n'y suis retournée que depuis 2 ans. Moi, c'est plus dans la gestion aussi de mes angoisses, d'une post-dépression, etc. Et je me suis surtout rendu compte quand mon corps avait énormément besoin en fait, d'être régulièrement relâcher et tirer et écouter et bref ça rentre dans tout mon processus de thérapie et de guérison, notamment donc vis-à-vis du fait de plus m'ouvrir à mes émotions, mes sensations et être moins dans ma tête, mais ça je pense qu'on y reviendra au fur et à mesure de cette conversation. Et voilà, c'est un outil qui est extrêmement thérapeutique pour moi. Mais tout ça, c'est, je pense, pour nous trois, Isabelle, je vais voir toi où tu te situes là-dessus, une approche qui est extrêmement occidentale du yoga. Voilà, je te laisse nous expliquer, toi, du coup, le yin yoga, le hatha yoga et vinyasa, t'as dit ?
C'est ça.
Voilà, donc déjà, ça, c'est des pratiques qui sont trois pratiques différentes du yoga. Ton rapport au yoga, comment tu y es venue ? Voilà, te situer et quelles sont ces pratiques-là, etc., etc.
Alors en fait, le yoga pour moi, c'était un rapport, un retour à mon corps. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai beaucoup dansé quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Et puis pendant de nombreuses années, j'ai été davantage dans le mental, de par mon activité pro, de par la
Qu'est-ce
société.
Qu'est-ce que tu faisais ?
Alors j'ai exercé dans différents types d'activités et la dernière activité pro que j'ai eue avant de transformer ma vie, c'était de la production artistique. Donc je bossais avec des artistes, un peu comme Justine, je crois.
Oui.
Voilà, donc je travaillais avec des compagnies de théâtre et des compagnies de danse. Donc j'étais témoin de mouvement.
C'est ça.
Et j'étais derrière un ordinateur et j'ai eu besoin, j'ai eu un déclic à un moment donné de revenir au corps. Même si j'ai toujours eu envie de mettre du mouvement dans ma vie, à savoir faire du sport, aller marcher dans la nature. Le yoga, il est entré dans ma vie parce que j'avais des maux de dos. Mmh. Voilà. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, quand on a des jobs où on est assis derrière un ordinateur, il y a des maux qui se créent, notamment au niveau du dos. Et donc j'ai googlé sur YouTube, j'ai tapé sur YouTube dans le moteur de recherche yoga pour le dos, et c'est comme ça que j'ai commencé.
Ok. Et comment ça s'est venu de te dire ? C'est toi qui t'es dit tout de suite je vais vers le yoga, ou c'est quelqu'un qui t'en a parlé, un médecin, ou qui t'a recommandé le yoga pour...
Alors autour de moi, dans mon environnement familial, dans mon environnement amical aussi, des personnes faisaient du yoga.
Okay.
Et j'ai trouvé dans un premier temps que le yoga pouvait avoir une approche similaire à la danse, puisqu'on est en mouvement, puisqu'on relie le souffle
au mouvement,
voilà. Mais par la suite, j'ai eu envie de partir en Inde, donc je suis partie en Inde.
Trop bien.
Et la deuxième révélation, quelques années après avoir pratiqué, donc pour mon dos notamment, et aussi pour calmer mon système nerveux et me retrouver, me recentrer, je suis partie en Inde dans un ashram dans lequel j'ai eu une approche davantage spirituelle du yoga.
Du coup, oui.
Où on avait la possibilité de méditer, mais aussi de chanter des mantras et de faire des postures de yoga. Donc c'est vrai que le yoga, dans le yoga, il y a les postures, donc ce qu'on connaît nous beaucoup en Occident.
C'est ça.
Mais il y a aussi tout un environnement. Le yoga est pour moi un art de vivre. C'est-à-dire qu'il nous permet à la fois de nous recentrer sur nous, donc de davantage choisir. Choisir comment on consomme, choisir ce qu'on regarde, choisir qui on a envie de voir, avec qui on a envie de s'entourer. Et aussi peut-être parfois de faire attention aux mots qu'on emploie.
Oui.
Voilà. Et simplement par respect pour soi. De ce fait, après ce séjour en Inde, voilà, du temps est passé, mais j'ai réalisé que j'avais envie davantage de mettre davantage de yoga dans ma vie, et peut-être pourquoi pas de me former pour devenir professeur. Le yoga, donc moi je transmets le yoga, mais je prends aussi beaucoup de cours de yoga. J'aime m'enrichir, j'enrichis toujours ma pratique avec au travers de différentes pratiques d'autres professeurs, d'autres enseignants, et c'est ce qui rend riche en fait aussi ma transmission.
Mais parce qu'elle est plurielle.
Exactement. Et le yoga, en fait, il est resté dans ma vie, notamment par rapport au fait que l'endométriose m'a été diagnostiquée, et ça a été d'une grande aide. Voilà.
Ok, oui, j'imagine. Ben voilà, du coup, tu as abordé déjà beaucoup de points très intéressants là sur tout ça. Je sais plus sur quoi je voulais rebondir, mais c'est pas grave. Justement, du coup, parce que c'est effectivement ce que j'ai lu, que forcément, donc, le yoga de base est indien, enfin, entre autres, mais voilà, il est indien. Et en France, il est arrivé au fur et à mesure, il me semble, au 19e, 20e siècle. Et sauf qu'à ce moment-là, nous, on a commencé à entamer un petit processus qui dure depuis un moment maintenant, où pendant le siècle des Lumières, du coup, on a commencé à se focus énormément sur notre mental et le cérébral. L'industrialisation est arrivée. Nous sommes rentrés encore plus, du coup, dans une démarche de produire, donc de travailler pour vivre, en se détachant encore plus du corps, parce que le but, c'était de produire pour la société, etc. Donc voilà, on a une approche, du coup, nous, occidentaux, sur le yoga, qui est, comme tu l'as dit, très basée sur les postures, très peu sur la spiritualité, très peu sur, tout simplement, même l'introspection, etc. Alors, je pense quand même plus chez les pratiquants de yoga assidus et qui ne vont pas... Parce que j'ai vu qu'il y avait des cours de yoga, même en salle de sport, maintenant. Donc, je ne sais pas trop ce que ça donne et par qui c'est donné. J'imagine que ça doit varier un petit peu. Et donc du coup voilà, donc énormément de différentes approches et surtout de richesses, je pense, dont on se coupe un peu trop pour l'instant, nous occidentaux, mais qui arrive de plus en plus, qui revient de plus en plus dans les mentalités, etc. Tu parlais du coup de trois types différents de yoga que tu enseignes. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le Hatha, le Vinyasa et le Yin?
Alors le Hatha yoga, c'est un yoga qui est très postural, dans lequel on respire aussi beaucoup. Mm-hmm. C'est un yoga qui est transmis notamment en Inde, donc avec différentes influences selon les maîtres qui ont transmis ce yoga. Par exemple, moi, en Inde, j'étais dans un ashram qui s'appelle Shivananda Hatha Yoga. C'est un ashram qu'on trouve dans différents endroits dans le monde, notamment à côté d'Orléans. Donc, si vous, auditeurs, vous avez envie d'avoir une expérience ashram à proximité de chez vous, vous pouvez vous déplacer dans la nature à côté d'Orléans.
Alors, attends, juste, je le coupe. Mais justement, qu'est-ce que c'est ashram ?
Alors, un ashram, c'est un endroit dans lequel on vit en communauté, en collectivité, où le yoga est potentiellement transmis. Il n'est pas présent de façon systématique. Mais c'est un endroit dans lequel on a la possibilité de s'éveiller justement spirituellement et d'être dans un état d'esprit de partage, d'authenticité, de bienveillance et de se détacher en fait des strates sociétales. On vit en fait sur un socle commun où on a vraiment cette possibilité d'échanger à la fois notre savoir-faire. On fait beaucoup de bénévolat, de volontariat dans un ashram. Et on a effectivement cette dimension spirituelle qui est très présente de par la méditation, des chants de mantras, un recueil qui est présent. Alors quand tu disais tout à l'heure en Occident, on est moins sur un yoga spirituel. Effectivement, les personnes qui font du yoga depuis un certain nombre de temps, qui peut-être à l'origine arrivaient dans une association, un club de sport ou un studio de yoga, avec l'intention de rester en forme et de mettre donc des postures, du mouvement dans leur vie, au fil du temps, s'aperçoivent qu'ils ont cette possibilité de retrouver une forme d'intériorité, une forme de sagesse intérieure.
C'est plus grand que ça.
Voilà, qui les aide en fait à dans leur vision du monde et dans leur rapport au monde, dans leur positionnement par rapport à leur famille, leurs amis, leur profession. Ça les ancre en fait, ça leur permet d'être plus fort.
Oui, en fait, c'est ce que tu disais, je viens de retrouver sur quoi je voulais rebondir du coup. C'est parce que moi, ça fait 5 ans maintenant, je crois, que j'ai commencé une thérapie, un énorme travail sur moi-même et que je travaille avec plusieurs professionnels différents sur différentes approches. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, il y a énormément de disciplines, quelles qu'elles soient, qui ne sont pas forcément thérapeutiques, qui vont toutes à peu près vers la même chose, c'est-à-dire donc. Là, ce dont tu parles depuis tout à l'heure, le fait de se reconnecter au corps, évidemment, enfin, ça me paraît évident qu'on en a quand même besoin, sinon on n'aurait pas de corps, on n'aurait qu'une tête et un cerveau. Mais c'est ça, d'être conscient en fait, de plus déjà ce qui se passe en nous pour pouvoir mieux le vivre, pour mieux le gérer dans le sens choisir ce qu'on veut et choisir ce qu'on ne veut pas, mais juste mieux accepter les choses telles qu'elles se passent, même les choses qu'on dit négatives. Et comme tu l'as dit aussi, c'est ça, être plus conscient des choses. Avec ma psy, nous, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode Vitos. Bref, je rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais c'est principalement basé sur la pleine conscience des choses. Et en fait, c'est ça, c'est extrêmement important de se rendre compte et d'être juste conscient des choses. Et là, ça nous donne un pouvoir décisionnel, comme tu disais du coup tout à l'heure, par rapport même aux choix que tu peux employer de mots, etc. Voilà, je me suis perdue, je sais plus pourquoi je dis ça. Je voulais faire le lien.
Et le lien, c'est très juste quand tu amènes cette intériorité et ce rapport au yin en fait.
C'est ça.
Donc la gestion des émotions, accepter notre part solaire, donc qui ferait peut-être référence à l'Hatha Yoga, même si dans l'Hatha Yoga on trouve aussi une forme d'intériorité. Le yin vient complémenter ce type de pratique. Le hatha et le vinyasa peut être complémenté par le yin yoga. Le yin yoga, c'est un yoga très lent qui demande à rester dans les postures plusieurs minutes.
Qui demande à les tenir, oui.
Voilà, qui demande à les tenir, mais non pas comme en hatha dans l'étirement, non, dans l'alignement, mais dans le relâchement, dans le lâcher prise. Et de ce fait, effectivement, c'est pas une meilleure gestion des émotions qui va être engendrée, mais c'est accepter ces émotions, accepter ce qui nous traverse dans la lenteur, dans l'immobilité.
C'est ça.
Et de ce fait, dans le yin, on a cette possibilité de revenir à soi, ce retour à soi, s'honorer, cultiver la lenteur,
Mais se rassembler, ça c'est être bien plus unifié que quand on est juste dans notre tête et qu'on ne se rend pas compte, par exemple, qu'on a 1500 émotions qui sont enfermées et qu'il se passe plein de choses et que...
Absolument. Et de ce fait, on s'aperçoit qu'on accepte cette part solaire et cette part lunaire, le yin et le yang.
Exactement.
Voilà. Et pour le vinyasa, c'est une pratique dynamique. Est plutôt qui s'adresse plutôt à un public plus initié qui demande d'avoir un état du corps assez
tonique.
D'être en bonne santé, un état du corps assez tonique, et c'est en fait ça c'est en forme de flow, donc c'est des enchaînements de postures en flow. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les postures. Comme, je ne sais pas si tous les profs de yoga seraient OK pour ça, mais c'est comme une chorégraphie qui nous relie profondément à notre respiration et qui nous permet, ce dont tu parlais tout à l'heure, un état de conscience du moment présent, de l'instant. Voilà, donc c'est des pratiques qui sont très complémentaires, qui sont différentes les unes des autres. On peut en choisir une, puis se balader, aller tester une autre. Peut-être avoir les trois en même temps, peu importe en fait. C'est vrai que ce que tu disais, comme Thomas tout à l'heure, tu disais la sophro. Oui, la sophro, ça peut ressembler au yoga nidra. C'est encore un autre type de yoga, où on appelle ça le yoga du sommeil, qui amène par la parole et dans une posture, en fait, par exemple allongée, une profonde détente. Donc on active le système nerveux parasympathique, celui qui est très cool avec nous, qui nous permet d'activer le nerf vague dans le bon sens du terme et de revenir à soi dans une société dans laquelle on va toujours très vite.
C'est ça, c'est le système nerveux parasympathique, c'est le système nerveux qui envoie des signaux de dire ok, on est safe, là on peut se poser, on peut se détendre, on est bon là. Ouais. Donc oui, tout à fait. C'est une super entrée en matière.
Et si je peux rebondir
oui,
sur
bien sûr,
quelque chose,
vas-y.
C'est hyper intéressant ce que tu as dit. Parce que personnellement, quand j'avais pratiqué du yoga, justement, ce que j'avais pas apprécié avec mes anciens cours, c'était ce truc-là de
presque trop
de
dynamique.
Pratique capitaliste, moi, je trouve, de tout le temps penser quand même. Et du coup, j'avais pas réussi à me détendre. Ouais. Parce que quand je l'avais fait, j'avais l'impression qu'on devait faire le plus de gestes possible, que ça devait quand même être productif, alors que moi, j'y allais pour me détendre. Et du coup, là, j'ai bien aimé que tu nous expliques tous les types de yoga parce que je me rends compte qu'en fait, il y a tellement de pratiques possibles et de rapports possibles qu'en fait, il faut aussi trouver sa méthode et son professeur ou sa professeure pour réussir à faire ce qui nous correspond le plus.
Mmh. Mais sa méthode ou ses différentes disciplines, mais en tout cas,
exactement.
De pas forcément en pratiquer une seule. Après, tout dépend des objectifs de chacun, mais comme on l'a dit, du coup, le yoga, c'est quand même intéressant. De prendre une approche qui est holistique et donc de prendre tous les points, peut-être de l'entretien physique, mais aussi du retour à soi, de l'entretien aussi émotionnel, enfin bref, plein de choses, et donc la spiritualité. Mais donc du coup, oui, c'est pour ça que je voulais plus que tu décrives, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est, tout le monde, enfin il y a encore des gens qui confondent la méditation et le yoga, je trouve ça assez fou.
Alors la méditation fait partie du yoga. C'est une des branches du yoga. On l'inclut, on propose ou pas, au choix du professeur et de la demande de son public, d'inclure des temps de méditation en début ou en fin de pratique. L'avantage en fin de pratique, c'est que la méditation, après avoir été en mouvement, le temps de méditation est simplifié. C'est-à-dire qu'on n'est plus posé. On est mieux dans
son
corps.
On est déjà dans un état réceptif.
Voilà, absolument.
Oui, oui.
Donc, on a parlé de trois types de yoga. Il en existe beaucoup.
C'est ça.
Dont je ne saurais même pas citer tous les noms.
Non,
parce qu'effectivement, il y en a beaucoup. Voilà, il y a. C'est déjà super.
C'est ça. Il y a vraiment énormément de choses. C'est ce que je me disais aussi, parce que tous ces mots-là, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Si vous êtes curieux, allez sur notre super outil qui s'appelle donc Internet et allez regarder ce que chaque mot veut dire, parce qu'évidemment, ce n'est pas des mots qui sont choisis au hasard ou des syllabes qui sont collées les unes aux autres pour rien. C'est du sanskrit, donc ça a un sens. C'est une langue qui n'est pas la nôtre, mais c'est quand même une langue. Donc allez voir ce que ça veut dire et voilà, renseignez-vous un peu sur tout ça pour trouver les types de yoga qui vous correspondraient éventuellement le plus. Je pense qu'il y a quand même chacun a y gagné d'intégrer au moins un petit peu, soit que de la méditation, mais voilà, soit donc du yoga dans son quotidien, même si c'est très ponctuel. Bref, je vous propose de faire une petite pause musique, comme ça on digère toutes les informations qu'on vient d'accumuler, etc. Donc on va s'écouter Shake It Out de Florence and the Machines. Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way, and all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh, but I like to keep some things to myself. I like to keep my Et bonsoir à toutes et à tous. C'est Les Voisines vous parlent de retour jusqu'à 21h. Donc je suis ce soir toujours en compagnie de Thomas à la réalisation.
Oui, coucou.
De Justine.
Re-coucou.
Et donc d'Isabelle, professeure de yoga que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais qui a été la professeure de yoga qui nous a offert des prestations de cours de yoga sur notre festival des Vilaines, la dernière édition en 2023. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc ce soir on parle yoga, on parle, et là on va parler, d'endométriose et de féminin sacré. C'est des conversations que nous là on apprécie fortement, qui sont très intéressantes, très enrichissantes. Donc là déjà on espère vous avoir un petit peu plus aiguillé sur plus de clarifications sur ce qu'est le yoga, des précisions. Donc du coup, enchaînons maintenant qu'on a mis les bases du yoga sur le féminin sacré et l'endométriose. Parce que donc toi, ton rapport au yoga, tu nous l'as dit, est arrivé en partie à cause de cette maladie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Comment ? Pourquoi ?
Alors comme on l'a dit tout à l'heure, le yoga, ça vient donner une forme d'apaisement, de retour à soi, une meilleure gestion des émotions et potentiellement de la douleur. Alors, j'ai été diagnostiquée de l'endométriose tardivement parce que j'avais des douleurs pelviennes très intenses durant ma période menstruelle. Il faut savoir qu'il y a des femmes, alors je parle selon mon expérience cette aventure avec l'endométriose, j'ai un peu de connaissances par rapport à ce que peuvent vivre les femmes, parce que je me suis aussi formée, étant intéressée au yoga pour accompagner les femmes qui ont de l'endométriose, donc un yoga spécifique qui ressemble beaucoup au yin yoga, mais avec un accompagnement personnalisé, pour créer un cocon autour de la femme qui est atteinte d'endométriose et qui a envie soit d'apporter un complément holistique à son traitement médicamenteux, naturel. Moi, pour ma part, j'avais refusé quand ma gynécologue sortie d'IRM m'avait annoncé donc cette maladie inflammatoire chronique que j'avais. J'ai refusé le traitement médicamenteux parce que j'avais arrêté la pilule, j'avais envie de sentir mon corps, j'étais aussi déjà dans une démarche holistique. Alors, c'était un choix. Le yoga, il peut venir complémenter donc le traitement médicamenteux, ou bien si la femme choisit cette aventure totalement holistique, voilà, la soutenir dans cette démarche. Après, il y a beaucoup d'autres choses, la sophrologie, l'alimentation, plus naturelle. Donc le yoga, ça permet de réduire le stress. Le stress, c'est un des facteurs très importants quand on est atteint d'endométriose. C'est-à-dire que toute maladie inflammatoire chronique est générée par différentes choses, notamment le stress. Et le stress, pour le gérer, il faut parfois se trouver des solutions.
Il faut des outils.
Voilà, il faut
des
outils.
On a peu dans la société, à part recourir justement à des solutions un peu moins saines, telles que l'alcool, les écrans, la nourriture. en excès.
C'est ça. Donc le yoga, ça vient permettre, ce retour à soi, cette meilleure gestion des émotions, reconnaître sa part sacrée, le fait qu'on soit abîmé de l'intérieur, mais qu'on ait envie d'accepter, d'aller voir ça, d'aller regarder cette douleur, ces zones endommagées, malgré
parce qu'elles
nous,
font partie de nous, même si elles font mal et qu'on aimerait que ça soit pas le cas éventuellement à certains moments, etc. C'est quand même quelque chose qui est là et qui fait partie de qui on est, de notre corps, etc.
Exactement. Donc c'est savoir vivre avec et de vivre avec le mieux possible finalement. Donc respirer, faire des postures très lentes, amener de la chaleur. Potentiellement des accessoires, des plaids, des bolsters. Des bolsters, ce sont des grands coussins ronds, cylindriques, qui ressemblent à des traversins. C'est créer tout un cocon autour de soi. Et donc, faire appel à ces postures pendant les douleurs ou pas, voilà. Et moi, ça m'a beaucoup aidée. Ça, c'est venu vraiment. Après, voilà, j'ai mis d'autres choses en place. Je me suis renseignée de toutes ces substances, enfin, pas ces substances, mais de tout ce qui était inflammatoire, et j'ai essayé de le réduire dans ma vie. Donc, c'est très compliqué parce que c'est en général tout ce qu'on aime. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
Très bien. Eh ben oui. Ben justement, moi, du coup, c'est là pour parler ce que. Ça, voilà, c'est le yoga comme accompagnement pour l'endométriose. Moi, j'expliquais que le yoga est venu dans ma vie, l'a revenu dans ma vie de manière très importante par rapport au, pas de l'endométriose, mais par rapport du coup à mon système nerveux qui a du mal à justement être activé, le parasympathique, c'est plutôt le sympathique qui est beaucoup activé trop. Et j'ai vraiment besoin de ça, et j'ai du coup des douleurs aussi liées à mon stress, que je rappelle que justement le stress, les angoisses, les traumatismes refoulés, etc., on le sait aujourd'hui, peuvent provoquer des maladies, et parce que notre corps trouve une manière de gérer cette énergie, cette émotion, peu importe, ou au contraire cette émotion dégénère, bref. Et j'ai justement trouvé, moi c'est beaucoup de yin yoga que je fais, et le yin yoga me permet vraiment de me détendre, notamment pendant mes règles aussi. Quand je réussis à juste me poser et me détendre et respirer profondément, je me rends compte que je contracte aussi mon ventre sans le vouloir quand j'ai mal. Et que rien que ça me permet de gérer mieux mes douleurs, que mes douleurs s'atténuent. Ou alors, donc, du coup, pendant la pratique du yin, juste, ça permet beaucoup de libération émotionnelle, énergétique, peu importe. Ne serait-ce qu'hier soir encore, j'étais très activée et dans des états pas cool. J'ai fait 30 minutes de yin yoga et à la fin, j'ai senti qu'il y avait des choses qui bougeaient. J'étais très fatiguée. Mais justement, c'est vraiment des outils qui accompagnent vraiment fort au quotidien sur énormément de choses. Voilà. Je sais plus où j'en étais, etc. Oui, si, du coup, l'endométriose. Le féminin sacré, qu'est-ce ? Pourquoi on parle de féminin sacré depuis le début de cette émission ? Qu'est-ce que le féminin sacré ?
Pour moi, le féminin sacré, c'est avant tout honorer sa part féminine. Donc, les hommes ont une part féminine, un côté yin. Chaque être a une part féminine. Donc c'est honorer sa lenteur, cette envie de reconnexion à soi en rapport avec la nature. Le féminin sacré, c'est un terme en fait qui est arrivé dans les années 70-80 avec les écoféministes qui avaient envie donc de respecter leur propre nature en écho à la nature, donc à leur cycle. Mmh. Dans un cycle, comme la lune se lève, et le soleil aussi d'ailleurs, et enfin, on assiste donc à une pleine lune et une nouvelle lune chaque mois, durant ce cycle d'un mois, donc de 28 jours en moyenne pour une femme, ou en tout cas une personne qui a ses règles, on assiste à différents cycles. Donc le féminin sacré permet de se connecter à la fois à ces moments plus yang de notre cycle, où on se sent jeune fille, épanouie, solaire, on a peut-être envie de porter davantage de couleurs. Ça correspond, si on se relie à la lune et qu'on a nos règles en connexion avec la lune. Alors ça, c'est quelque chose peut-être qu'on doit chercher ou retravailler, ou en passant beaucoup de temps dans la nature, en acceptant la lenteur, parce qu'on est tellement yang qu'on est déconnecté en fait de la lune.
Voilà,
la lune a
dire.
Un impact sur nos menstruations possibles chez les Amérindiens, ou en tout cas en Amérique latine, certaines populations, certaines tribus, dans certaines tribus, les femmes ont leurs règles en même temps au moment de la nouvelle ou de la pleine lune. On appelle ça les tentes rouges. Donc ça revient beaucoup en Occident. Ça permet de faire des cercles de femmes, de partager justement des problématiques au-delà de nos menstruations, mais d'aller dans des sujets où l'authenticité a été mise de côté parfois, et qui nous permet de nous réassembler à la fois ensemble dans une forme de sororité, et à la fois de se reconnecter à soi, à ses sensations, de parler sans avoir peur du jugement en retour.
Oui, d'être vulnérable.
En fait, voilà, et en fait, pour revenir au cycle, dans un mois, dans 28 jours, on a 4 cycles. Donc le cycle, on appelle ça le cycle de l'enchanteresse, correspond à l'ovulation et à la pré-ovulation.
Oui.
Et on a aussi le cycle de la sorcière, le cycle de la jeune fille, donc c'est la pré-ovulation, et le cycle de la mère. La mère, donc c'est l'ovulation. Voilà. Le féminin, il est sacré en chacun de nous. C'est vrai que quand on a nos règles, on vit des choses qui sont particulières. Le féminin sacré, c'est peut-être aussi une possibilité de mieux se connaître, d'apprendre nos cycles.
Et de reconnexion, en fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Le féminin sacré opposé au féminin, enfin opposé, en complémentarité du masculin sacré, ou donc qui se retrouve la plus dans la culture, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais dire chinoise, mais du yin et du yang, c'est vraiment donc ce qui est intérieur, c'est les émotions, c'est donc tout ce dont on parlait tout à l'heure, où on s'en est beaucoup, beaucoup coupé dans l'Occident. Donc c'est ça, c'est la reconnexion à son intériorité et à ce qui se passe en soi et pas à l'action et à ce qu'on fait, etc., etc.
Absolument. Et c'est aussi un moyen, peut-être, le féminin sacré, d'englober les hommes, de faire en sorte que l'homme puisse avoir un accès. Ça permet à la femme, en fait, d'expliquer ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, et donc de partager et d'inclure l'homme. Son ami, oui. Son père,
son amant, c'est un moyen de comment on dit, de retrouver du pouvoir sur nos vécus, et donc en les faisant exister et en arrêtant de les taire, etc. Parce que je rappelle quand même que l'endométriose, elle n'est pas apparue il y a 2 ans et demi, et on est quand même très peu avancé sur la recherche de cette maladie, comme une grande majorité, voire totalité de mots qui atteignent les femmes. On ne recherche depuis des années et des années que ce qui concerne les hommes, voire même on recherche des choses qui ne concernent que... Pardon, quand on parle aussi d'hommes et de femmes, je me perds un peu. Les femmes, c'est juste les personnes menstruées. Là, on parle de manière très genrée, mais j'inclus tout le monde dans... Tous les gens qui se reconnaissent en tant que femmes et en tant qu'hommes. Bref, au niveau biologique, on s'entend donc personnes menstruées, etc. Et donc oui, j'ai vu qu'il y avait des... On a appris au fur et à mesure là, des années qu'il y a eu même des études et des recherches qui ont été faites sur des hommes, qui ne sont donc pas menstrués, sur des choses qui concernent des femmes, des gens menstrués. Donc les corps qui n'ont pas les mêmes fonctionnements, qui n'ont pas les mêmes biologies, qui n'ont même... Enfin, que voilà, on est dans une société quand même qui ne nous donne pas beaucoup de lumière de base sur tout ça et sur cette prise de pouvoir-là, de juste notre être et notre expérience et notre vécu. Donc j'imagine que c'est ça que tu dis, que le féminin sacré nous permet de nous reconnecter à tout ça, de le faire exister et donc de pouvoir nous faire entendre et comprendre pour juste cohabiter, parce qu'on est donc sur une société, ça veut dire qu'on est des êtres humains qui habitons ensemble, qui cohabitons ensemble, qui existons ensemble. Et effectivement, c'est quand même assez primordial que chacun puisse se comprendre ce que les uns et les autres vivent, en particulier chez les êtres aimés, quels qu'ils soient, comme tu as dit.
Absolument. Et en fait, c'est aussi une manière pour les femmes de déculpabiliser. C'est-à-dire... on a beaucoup normalisé la douleur, ouais. Ou bien le fait d'avoir ses règles. Mais qu'est-ce que t'as tes règles? Oui, j'ai mes règles. Oui, j'ai mes règles. J'ai besoin de ralentir. J'ai besoin de m'accorder plus de lenteur, d'être davantage à l'écoute de mon féminin, de mon côté yin de ce fait, donc plus lunaire. Voilà, il y a un lien. Donc les hommes, potentiellement, ont cette capacité de mieux nous comprendre, de mieux nous entendre. Et cette déculpabilisation, pour moi, elle est extrêmement importante parce que on tait trop, à la fois, l'endométriose, parce que c'est une maladie qui ne se voit pas, qui est une maladie bénigne, parce qu'on... Voilà,
elle menace pas la santé, la vie.
En tout cas, la vie.
Elle pourrit la vie.
Elle peut pourrir la vie, absolument. Ouais. Et j'ai envie de dire, il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes. C'est-à-dire qu'on peut, on peut être diagnostiqué d'une endométriose légère, mais finalement avoir beaucoup de douleurs.
Oui, enfin, bref, des symptômes forts.
Voilà, c'est ça.
Ça donc, dépend de chaque corps et de chacun, et effectivement, bien sûr.
Voilà, donc finalement, les trois thématiques, yoga, féminin sacré et endométriose, se lient parce qu'on est toujours dans... En fait, on est dans cette envie, dans ce désir de mieux s'écouter, de mieux communiquer avec soi-même et d'être entendu et davantage compris.
C'est ça, parce que c'est ce que tu partageais tout à l'heure un peu en off, mais que ça peut être une maladie comme beaucoup d'autres choses, mais là du coup sur l'endométriose en particulier, qui peut être très isolante justement, parce que donc, mm-hmm. comme on l'a dit, elle n'était pas comprise, ne serait-ce que ce que tu disais par rapport juste aux règles simples, le fait d'avoir mal au ventre, etc., n'a pas été, et que ce soit vraiment une réelle souffrance, et donc un réel handicap parfois pour certaines, ou à certains moments pour tout le monde. C'était pas pris au sérieux. Aujourd'hui, on commence à en parler de plus en plus, notamment avec la possibilité d'avoir un congé mensuel au moment de nos règles, etc. Mais du coup, c'est forcément des choses, quand c'est une maladie en plus, donc quand c'est quelque chose qui est très fort et qui peut être vraiment très handicapant et très très douloureux, qui peut être très isolant. Déjà, on se tape la réalité qu'on a une maladie, qu'en plus de ça, je rappelle aussi que l'endométriose peut impacter la fertilité. Donc il y a beaucoup, beaucoup de bouleversements à vivre et on se retrouve en plus de ça à finalement ne pas être vraiment compris. Il doit y avoir aussi des médecins qui ne comprennent pas ce que c'est non plus, donc qui invalident ce qu'on vit. Voilà. Donc effectivement, je comprends pourquoi c'est très important tous ces liens et tous ces retours à tout ça et tous ces outils, donc pour encore une fois. Valider tout ça, tout simplement, en fait, et le rendre tel qu'il est, réel, à sa juste hauteur et valeur. Ok. Est-ce que vous avez des petites remarques, des petites questions, des choses sur lesquelles vous voulez rebondir ?
Oui, c'est moi, j'ai dit. je trouve ça hyper intéressant qu'on parle de ça, parce que, personnellement, la seule fois où j'ai entendu parler du féminin sacré, c'était de manière assez négative et je trouve et je voulais savoir un peu comment certaines personnes se le sont réappropriées de manière positive comme toi, mais aussi du coup comment certains ou certaines se le réapproprient de manière négative. Pardon, j'étais pas en face du micro. Pour ma part, dans mon expérience, c'est parce que j'ai entendu certains hommes me parler de féminin sacré, mais du coup comme quelque chose qu'il fallait glorifier et dans une en l'occurrence, moi, c'était lors d'un conflit et un mec qui me disait, écoute, moi, je respecte les femmes, je les considère comme quelque chose justement de sacré et je sais à quel point elles sont importantes, à quel point sans elles, non. Et ça m'a un peu brusqué parce que je considère que la femme n'est pas sacrée, qu'elle n'a rien de... Enfin, en fait, j'avais du mal avec cette pensée.
C'était une sacralisation qui était mal placée.
Exactement. En fait, tu peux me parler d'humain à humain, tu peux me considérer comme égal à toi. Je considère pas que t'es féministe parce que tu me dis que tu respectes la femme et à quel point elle est sacrée, justement. Et aussi, c'est bien parce que t'en as parlé, Émilie, mais c'est ce que je disais. Moi, j'avais une vision un peu réductive de la femme dans ce terme-là, parce que du coup on considère qu'être femme c'est être réglée, et c'est cool parce que toutes les deux vous en avez parlé, mais en fait c'est bien plus qu'être une femme et ça s'arrête pas au fait d'avoir ses règles. Non. Et voilà, je sais
là
pas
on
si...
en parle beaucoup par rapport à l'endométriose.
Exactement.
Non, complètement. Bon, ben du coup, on va refaire une petite pause musicale. Ça fait quand même un moment qu'on parle, donc on va écouter Freedom de Beyoncé et Kendrick Lamar.
Trying to rain, trying to rain. I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. 8 blacks left, death is around the corner. 7 misleading statements about my persona. 6 headlights waving in my direction. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly, guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy, gold on me, driving me wicked. My spirit inspired me, like yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads.
Bonsoir à toutes et à tous de nouveau. Nous sommes encore en antenne pour 12 minutes. C'est donc les voisines. Je suis donc ce soir avec Justine, ma compatriote des voisines.
On Thomas. Peut remercier Beyoncé. Oui.
Et encore Isabelle, toujours nous.
Voilà.
Donc, dans la partie des précédentes, on a bien débunké l'endométriose, on a parlé, ça y est, du féminin sacré, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, nous continuons cette discussion très intéressante, enrichissante, même passionnante, sur tous ces sujets. Et effectivement, donc, on n'a pas parlé de ça, mais on parle de l'endométriose, pardon. Mais Isabelle, est-ce que tu serais d'accord pour nous parler comment toi, ça t'a impacté? Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'endométriose pour toi? Qu'est-ce que ça a changé? Enfin, voilà.
Alors, pour moi, l'endométriose, ça a été principalement physiquement, donc des douleurs qui... Quand je l'ai décrivé, alors moi je n'ai pas fait d'enfant, j'ai 44 ans aujourd'hui, mais je n'ai pas fait d'enfant. Mais quand j'essayais de les décrire à mes copines qui, elles, ont fait des enfants, elles me disaient, mais en fait, tu vis une fois par mois, lors de plusieurs épisodes, comme des contractions. Donc j'avais des contractions à la fois utérines, des douleurs lancinantes à l'intérieur, donc des douleurs pelviennes très fortes, qui m'handicapaient et me mettaient à l'arrêt. D'autant plus que ça venait impacter mon système digestif. Alors certaines femmes, je le sais puisque j'en ai parlé avec certaines, ont des problèmes de digestion, c'est-à-dire ont un ventre très ballonné, on appelle ça l'endobélie, donc vraiment un ventre qui double, qui triple, avec des problèmes de transit incroyables où il est difficile d'aller à la selle. Pardon, je suis crue, mais voilà.
C'est important qu'on en parle dans ces mots-là, c'est ce qui se passe. Donc oui.
Et pour ma part, j'avais un transit très facilité à tel point que voilà, j'étais sur les toilettes pendant plusieurs heures par jour. Donc, mesdemoiselles, mesdames, si vous avez ce type de symptômes quand vous êtes du moins physique, quand vous avez vos règles, ce n'est pas forcément normal. Ce type de douleurs ne sont pas normales. La douleur pendant les règles n'est pas banalisée. Il n'est pas forcément normal d'avoir mal pendant ces règles. Donc peut-être en parler d'abord à votre doc généraliste, éventuellement avec votre gynéco, d'autres femmes. Si vous êtes jeune fille, peut-être votre maman, des proches, c'est important. C'est pour ça. Ma part, donc ça c'était des douleurs physiques. J'ai aussi subi, et ça on est nombreux je pense, des fragilités émotionnelles. C'est-à-dire que comme certaines personnes qui ont leurs règles aussi, parfois les hommes, si on est, si on est à l'écoute de nos ressentis, on peut avoir ces moments de bousculade émotionnelle, d'émotions hyper intenses, où on se sent fragile, on se sent irritable, on a moins de patience, on est très intérieur, on dit oui à des sollicitations extérieures. Or, on a envie de dire à nos potes, mais non, en fait, j'ai pas envie, j'ai envie de faire ma marmotte sur mon canapé.
Mais ça, d'être tranquille.
D'être tranquille. On est moins au taquet. On a moins d'énergie. On est plus sensible, on est plus fragile, notamment pendant la période prémenstruelle. Moi, c'était mon cas pendant ma période prémenstruelle. Donc, prémenstruelle, ça veut dire en amont des règles, avant les règles. J'étais hyper fatiguée. Donc, clairement, pendant, je dirais entre 5 et 10 jours, c'était plutôt 10 jours par mois pendant de nombreuses années, parce que j'ai décidé d'arrêter la pilule et d'écouter mon corps et de le ressentir. Alors c'est un choix. C'était difficile, c'était compliqué pour moi de vivre normalement. On ne vit pas normalement.
Non, mais bien sûr.
Donc c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir communiquer si on a un compagnon, si on a une chérie, un chéri, peu importe, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir expliquer ce qui se passe.
Pourquoi on est comme ça et que c'est pas contre l'autre et que juste là on souffre ou qu'on est bizarre, on se reconnaît pas.
Exactement. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on est, pas volontaire. On est bizarre. Hein. On a parfois envie de tout plaquer. Moi, parfois, j'avais envie de tout plaquer, de me dire, mais non, mais en fait, c'est pas du tout ça que je veux dans ma vie. J'ai envie de tout changer, tout transformer. Je ne veux plus vivre comme ça. Yeah. Voilà. Après, pour être davantage compris, donc il y a des cercles, il y a des possibilités avec des assos comme EndoFrance. EndoFrance, c'est une asso que je vous recommande de contacter si vous avez des doutes. Vous pouvez consulter leur site internet, il y a beaucoup d'explications qui sont faites. Vous pouvez aussi consulter leur Insta. Sur Insta, il y a de nombreux comptes de jeunes femmes qui ont de l'endométriose, qui informent des différentes possibilités qui s'offrent à nous pour pouvoir vivre au mieux cette maladie. Et voilà, je trouve ça chouette. Donc, pour ma part, j'ai cherché, lorsqu'on m'a diagnostiqué cette maladie, j'avais une gynécologue qui recevait tout type de public. J'ai cherché à contacter une gynécologue spécialisée en endométriose. Donc il y en a quelques-unes. Il y a l'hôpital Saint-Joseph à Paris qui a une unité spécialisée pour recevoir les femmes qui ont endométriose, avec des gynécologues, mais aussi des métiers transverses, à savoir des diététiciens, nutritionnistes, des personnes qui offrent des possibilités de séances de sophro.
Ostéopathe
D'ostéo, éventuellement, je ne sais pas, je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, c'est vrai que l'ostéopathe peut venir aider et favoriser un mieux-être. la massothérapeute qui va se spécialiser dans la gestion de ce type de douleur aussi. Donc pour ma part, moi j'ai contacté quelqu'un à Boulogne-Billancourt, dont je me souviens plus de son nom, mais j'ai aussi trouvé par ailleurs à la clinique de Mainvilliers, donc en Eure-et-Loire, une jeune dame qui s'appelle Marie Fournier, qui a une trentaine d'années, qui est sans jugement, qui est très ouverte d'esprit, qui ne vous impose pas un traitement médicamenteux, qui est très à l'écoute de votre besoin, de votre ressenti, de votre gestion et de votre histoire par rapport à la maladie. Donc, voilà, si vous êtes jeune fille et que vous avez des doutes, pourquoi pas la contacter, peut-être échanger avec elle. Marie Fournier, clinique de Mainvilliers. Voilà. Voilà la façon dont j'ai vécu mon endométriose. Alors aujourd'hui,
oui, c'est ce que
moi j'ai pas eu ce désir très très fort d'enfant. Donc je ne sais pas si j'avais eu cette possibilité ou pas. Je ne sais pas quel était mon degré de fertilité. Mais c'est vrai que on dit que parmi ces femmes, donc une sur dix qui est atteinte par l'endométriose, a priori 30 à 40% des femmes seraient rencontrent
des problèmes de fertilité.
De fertilité, voilà, absolument. Donc c'est pareil, tout ça, c'est il y a des accompagnements spécifiques avec des psychothérapeutes, des thérapeutes qui peuvent vous accompagner. Des comptes Instagram, on en parle de plus en plus et ça c'est très chouette. C'est vraiment important.
Très très important.
Ouais, c'est très important.
Complètement. Bah donc merci beaucoup pour ces ressources. Moi du coup ça vient de me faire penser quand j'ai parlé d'ostéopathe que en fait je vois une ostéo qui est spécialisée justement dans toute la sphère utérine qui s'appelle Manon Le Tourneau. Vous pouvez la retrouver je crois à Versailles et à Dampierre également. Donc, elle s'occupe aussi de patientes qui sont atteintes d'endométriose, pas que. Elle fait aussi des suivis de grossesse. Elle gère des patientes atteintes de vaginisme. Enfin bon, bref, tout ce qui touche à la région utérine. Voilà. Donc, vous pouvez aller la voir. C'est super. Je veux poser une petite question quand même à Thomas parce qu'il était dans cette émission.
Salut.
Pour qu'il s'exprime un peu quand même. Mais par rapport à tout ce qu'on a dit, tout ce dont on a parlé, par rapport, centré sur particulièrement l'endométriose et les difficultés rencontrées par une personne menstruée là-dessus, est-ce que toi, en tant qu'homme non menstrué, du coup, tu as un retour connaissance de
effectivement, ce qui était super intéressant, là, c'était de en apprendre plus sur l'endométriose, sur la maladie. Parce qu'effectivement, avant, donc il y a 2 ans, j'ai eu une collègue effectivement qui était atteinte d'endométriose aussi. Mais avant ça, j'en avais, je crois, alors c'est compliqué de m'en souvenir, mais jamais entendu parler en termes de nom. Donc elle m'avait expliqué très vite fait ce que c'était. Mais pas aussi précisément que Isabelle tu viens de faire pendant l'émission. Et donc je me souvenais pas exactement de ce dont elle souffrait, de ses symptômes. Je me souviens juste qu'effectivement une fois par mois on la voyait pas au bureau parce que ouais effectivement elle pouvait pas bouger comme tu disais, ça la bloquait totalement. Et je crois que son ventre il gonflait aussi comme tu as dit, elle avait des gonflements de ventre. Mais effectivement jamais de la vie, j'ai dû peut-être en entendre dans des films, tu vois, très vite fait, mais je ne savais pas effectivement. Et du coup c'est entré dans l'imaginaire collectif que règle égale douleur en fait. Et donc du coup on se pose pas plus de questions derrière sur cette maladie là parce qu'on dit bah ouais t'es réglé, t'as mal, bah ouais.
Je me permets de rappeler que de toute façon, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses par rapport à la souffrance des femmes qui a été normalisée et minimisée, y compris, parce que ça on l'a beaucoup entendu aussi, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles, mal, et ce n'est pas normal aussi, je me permets de le dire, d'avoir mal pendant les rapports sexuels, voilà, au cas où, ce n'est pas normal. Merci beaucoup sur cette note, pour toute cette conversation. Isabelle, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, je me permets juste d'ajouter une petite nuance. Qui dit douleur ne dit pas forcément endométriose.
Ah non, non, pas
on
du
est,
tout, c'est pas ça qu'on dit.
On est bien d'accord
juste
là-dessus.
Justement.
Simplement pour pas vous inciter à croire que poser un nom sur vos
de
symptômes.
De vous auto-diagnostiquer,
voilà,
bien
absolument.
Sûr que non.
Donc on me retrouve à Rambouillet pour des cours de yoga, donc Hatha, Yin et Vinyasa. Mon compte Instagram c'est yoga.isana. Je serais ravie d'échanger avec vous sur les différentes pratiques que je propose. Je me suis également formée à différents types de massages, donc ça vient complémenter cette partie yoga pour votre bien-être, pour défaire des tensions, pour faire circuler l'énergie, donc le prana en sanskrit. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, un DM, et je serai ravie de vous répondre. Je vous dis merci beaucoup, Liliane, de cette invitation.
C'était une super conversation. Nous, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur Instagram, le compte Lévilaine Festival. Et voilà, c'est tout pour nous ce soir. Merci beaucoup. À bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, la semaine d'après, 20h-21h sur RVE 103.7.